RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, Motors, on est ensemble en direct jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Oui, bonjour Louis, bonjour à tous.
À la une, la F1, pas de Grand Prix cette semaine, mais beaucoup d'annonces, on y revient dans un instant. Au programme également, deux courses d'endurance, une au Mont Fuji, l'autre aux États-Unis, c'est le Petit Le Mans. Nous serons avec Romain Dumas pour en parler. Et puis dans Radio Paddock, l'émergence de Mick Schumacher, fils de son père, sacré hier à 19 ans, champion d'Europe de Formule 3. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. C'est peut-être la semaine prochaine que se jouera le championnat en Formule 1. Lewis Hamilton peut remporter à Austin un cinquième titre mondial à condition de marquer 9 points de plus que Sébastien Vettel. Pas de course ce week-end, mais encore dans le paddock, une semaine agitée.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite 120. Le briefing. Avec le nouvel épisode, Jean-Luc, d'un feuilleton qui nous occupe depuis plusieurs semaines, encore une mauvaise nouvelle pour l'avenir d'Esteban Ocon, puisque Williams a officialisé l'arrivée du Britannique George Russell la saison prochaine. On le craignait, le scénario du pire se précise. Ocon a maintenant toutes les chances d'être à pied la saison prochaine.
Eh oui, Louis, malheureusement, on le pressentait hein, depuis quelques semaines, depuis l'été, pour être clair, alors qu'Esteban avait toutes les cartes en main. On rappelle quand même qu'au classement général provisoire du championnat du monde, pour le moment, il est 11e avec 49 points, très très proche évidemment de son équipier Pérez, qui est lui 7e, 53, mais on va dire le talent, une nouvelle fois, n'a malheureusement rien à voir là-dedans. Mercedes ne le soutient pas, ou ne le soutient plus autant qu'il devrait peut-être le faire, puisqu'on rappelle que George Russell, effectivement, qui est en passe de remporter le titre en Formule 2, eh bien lui est soutenu et quasi imposé par Mercedes. Donc c'est pas une bonne nouvelle du tout pour Esteban, qui va peut-être pouvoir rester troisième pilote chez Force India. A priori, je crois que c'est presque la seule solution qui lui reste.
On rappelle que chez Force India, c'est Lance Stroll qui prendra sa place. Et c'est pour ça qu'il y avait peut-être une ouverture pour Ocon chez Williams. Le fait, Jean-Luc, que Russell ait été appelé, choisi par Williams plutôt qu'Esteban Ocon, est-ce que tu considères que c'est un désaveu de Mercedes vis-à-vis du Français ?
Écoute, obligatoirement, évidemment, Toto Wolff ne va pas du tout apprécier qu'on dise ça comme ça, mais je crois que, comme toujours, sur AMC et dans Motors, on n'a pas la langue de bois. Ben, c'est pas grave. Écoute, moi, je dis oui, bien sûr, puisque quand on promeut un nouveau jeune pilote du Serail, je crois qu'Esteban n'a pas démérité, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a parfaitement rempli tous les contrats, tous les objectifs qui lui étaient pas d'ailleurs assignés de manière précise, mais bon, on sait que c'est un des pilotes les plus rapides de la Formule 1. Il a maintenant le talent pour aller plus haut et mieux, et je répète une nouvelle fois, ben je me lance aussi, il serait à la place de Bottas, je pense, chez Mercedes, il ferait aussi bien que Bottas, peut-être même un peu mieux.
Alors il reste une toute petite chance quand même, Jean-Luc, pour Esteban Ocon, même si on a l'impression de répéter cela depuis des semaines, c'est que la place de Sirotkin n'est pas encore totalement verrouillée. Mercedes pourrait placer dans le baquet de Sirotkin un autre de ses pilotes, donc Esteban Ocon, à condition de payer Williams. Est-ce que tu penses ce scénario encore envisageable aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut vraiment tirer un trait sur la saison prochaine ?
Ah, écoute, la solution, je la préconise depuis longtemps, c'est évidemment une réduction de la facture moteur. Tu sais qu'elle est énorme maintenant en Formule 1, depuis l'avènement de ces nouveaux moteurs dont tu sais ce que je pense sur le fond, hein, depuis 2014, puisque la facture moteur a dépassé maintenant les 20 millions de dollars, tout ça pour 3 moteurs par an. Donc je pense qu'effectivement Mercedes aurait pu, devra réduire la facture. Alors de combien ? Ben, après c'est la foire d'empoigne, hein. Est-ce qu'on met 5 millions de moins pour avoir Ocon dans le deuxième baquet, 8, 10, je n'en sais rien. Je ne sais pas à quel niveau Sirotkin peut financer sa saison, parce que soyons clairs, même s'il n'a pas démérité, Sirotkin, là aussi, face à Ocon, il n'y a pas photo une seconde,
tu vois
ce que je veux dire. Il est dernier du championnat avec un point, je m'arrête là. Bon, tu me diras, Stroll n'a pas fait beaucoup mieux avec la Williams.
Oui, mais il y a plus de sous.
Voilà, tu as tout résumé.
Si tu étais le manager d'Esteban Ocon, ou si tu t'occupais de gérer sa carrière, bon, on a bien compris que ça se serait pas passé tout à fait comme ça déjà, mais est-ce que finalement, entre aller chez Williams, qui est la pire équipe du plateau, et prendre une année de recul avant peut-être de revenir dans une équipe de pointe, qu'est-ce que tu lui conseillerais finalement ?
Écoute, c'est clair qu'il faut rester dans l'environnement de la Formule 1, sinon il y aurait évidemment l'IndyCar, hein, où son talent pourrait éclater, ou d'autres disciplines. Non, je pense qu'il faut qu'il reste absolument centré sur la Formule 1. Je pense que là aussi, bah, Mercedes doit quand même peut-être, pourquoi pas, le nommer troisième pilote Mercedes, aussi on ne sait jamais tout ce qui peut arriver, mais devrait le... On a vu d'autres pilotes dans le passé, c'est pas arrivé très souvent, mais être rétrogradé comme ça, bah, regarde Daniil Viat, il est comme les chats, il a cette vie, et voilà qui réapparaît, ou peut-être être managé par d'autres personnes, si tu vois également ce que je veux dire. Mais bon, certes. C'est un vaste débat.
Et plus globalement, parce que c'est là-dessus aussi, Jean-Luc, qu'on a envie de t'entendre, quand on parle d'Esteban Ocon et de cette nouvelle, quand même assez terrible, hein, pour sa saison prochaine. Qu'est-ce que ça dit de la Formule 1?
Bah, c'est une mauvaise nouvelle, c'est un nouveau mauvais signe, très mauvais signe, et je crois qu'on mesurera vraiment sur la grille 2019 qui commence donc à se dessiner le vide que va laisser Fernando Alonso. C'est une évidence, parce que Fernando Alonso, outre ses titres de double champion du monde, on en parle depuis longtemps, mais c'est un combatif, c'est quelqu'un par qui tout peut arriver à tout moment, tellement son talent est toujours éclatant. On peut d'ores et déjà dire que malheureusement il ne sera pas parvenu déjà à décrocher ce troisième titre, mais c'est une personnalité, Fernando Alonso, et voir quelqu'un comme lui, en plein talent, en pleine force de l'âge, quitter, tourner le dos à la Formule 1 comme il le fait, et avec de très bons arguments, en disant je m'ennuie et je vais m'amuser ailleurs, bah, c'est absolument dramatique, et je pense que oui, c'est un nouveau, très mauvais signe, je le répète à l'envi, tu le sais depuis des années, hein. On peut me traiter de passéiste ou de ce qu'on veut, mais là, d'abord, il n'y a pas assez de baquets en Formule 1, je le répète, il en faut 6 de plus, comme avant, il en faut 26, et ça permettrait à des jeunes pilotes talentueux d'apparaître en Formule 1 et justement d'être sous le feu des projecteurs. Avec 20, on n'en a pas assez, et surtout quand la moitié sont attribués à des pilotes payants, évidemment.
Un mot quand même sur George Russell, parce que le pauvre, on va pas l'accabler, bravo à lui.
Ah non.
Il sera titulaire en Formule 1 la saison prochaine. C'est une étoile montante du sport automobile anglais. Il est très bien placé pour être champion de Formule 2. Évidemment, c'est une promotion méritée, Jean-Luc. Là-dessus, il n'y a pas de débat.
Ah, il n'y a pas de débat une seconde, c'est une promotion totalement méritée. D'ailleurs, on peut signaler Lando Norris, hein, qui arrive également chez McLaren, et Antonio Giovinazzi, qui arrive chez Sauber. Les trois méritent parfaitement leur place en Formule 1. Le problème, c'est qu'on va éjecter, bon, Fernando Alonso s'en va volontairement, on va éjecter Esteban Ocon, Stoffel Vandoorne, qui, à mon avis, également, n'a absolument pas démérité, il avait une trajectoire formidable, pilote belge, jusqu'à la F1, mais il s'est enlisé, on va dire, chez McLaren, qui est au fond du trou, et puis Marcus Ericsson qui lui partirait a priori en IndyCar. Donc non, c'est pas, là une nouvelle fois c'est pas bon signe, il n'y a pas assez de baquets tout simplement, et on sait très bien qu'on est en passe d'en perdre d'autres, hein, parce que Williams ne survit que par miracle. À l'époque, Bernie Ecclestone lui-même mettait la main à la poche avec la FOM. Est-ce que Liberty Media fait ou va faire pareil, parce que évidemment la Formule 1 ne pourrait pas se permettre de perdre une autre équipe.
Non, surtout une équipe historique comme celle-ci. C'est sûr que quand on est un investisseur américain au hasard, qu'on arrive et qu'on achète la Formule 1, on a envie de garder ces noms qui ont fait l'histoire du sport depuis des décennies. Jean-Luc, c'est pas possible autrement.
Mais oui, c'est tout à fait mythique, et on en a parlé même avec Christophe Cessieux, et il a raison avec François Pesanti, toi, parce que ça me revient, ces deux personnes qui disaient les grands noms de la Formule 1.
Pardon ? Tu parles aux gens du haut.
Bah bien sûr. Non mais je parle avec ceux qui s'intéressent à la F1 même en dehors de leur sport de prédilection. Et ce que je voulais dire par là, c'est juste que y a des noms mythiques en Formule 1, et c'est vrai que l'idée d'avoir par exemple des licences, tu vois, qui peuvent se vendre comme dans d'autres sports, ben je pense que c'est intéressant. On a perdu Lotus, tu vois, c'est un exemple, et c'est extrêmement dommage que les équipes mythiques de la Formule 1 puissent disparaître. Et si un jour malheureusement Williams devait renoncer à la Formule 1, ou plutôt était contraint de ne pas poursuivre, ben ce serait absolument dramatique, parce que cette équipe Williams, elle a eu un nombre de succès absolument invraisemblable, tout le monde s'en rappelle, dans les années 80 et surtout 90, évidemment, avec le fabuleux moteur Renault V10, et c'est tragique de l'avoir au fond du trou, comme McLaren d'ailleurs, qui n'est plus véritablement McLaren. On peut dire que depuis que Ron Dennis a été poussé dehors, cette équipe mythique a perdu tout son intérêt. On imagine, tiens, je vais parler du pire, et c'est vraiment le pire, la Formule 1 sans Ferrari, comme effectivement
ça
Sergio Marchionne.
La mort du sport quasiment.
Ah ben quasiment, oui, puisque on peut dire que la notoriété et l'intérêt de la Formule 1 reposent au moins à 50% sur l'équipe Ferrari. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle Sergio Marchionne, et paix à son âme, c'était un vrai passionné lui aussi de Formule 1 et de Ferrari, avait menacé de retirer son équipe si des décisions contraires à l'intérêt global de la Formule 1 étaient prises. Évidemment à l'intérêt de Ferrari, mais j'allais dire, comme Ferrari c'est la F1 et lycée de Versailles, tu vois ce que je veux dire.
Une dernière question au sujet d'Esteban Ocon, avant de refermer ce chapitre-là, Jean-Luc, est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire de la Formule 1 de pilotes qui ont pris un an de recul forcé, qui n'ont pas couru pendant un an, et qui ont réussi à revenir et à être performants derrière. Ou est-ce que s'absenter un an, c'est finalement mourir?
Bah écoute, c'est extrêmement difficile, hein. On voit bien, là c'est pour des raisons d'accident, les difficultés que Robert Kubica, dont on parle mais de moins en moins chez Williams, et pourtant je crois qu'il amenait un pactole estimé à 7 ou 8 millions de dollars, tu vois, ça ne suffit même pas à un pilote aussi talentueux que Robert Kubica pour revenir. Alors c'est vrai qu'on peut en trouver d'autres, bah je citais Kvyat dans l'expérience récente, on peut en
J'ai
citer
dit
certains. Pardon ?
J'avais dit champion.
Oui, on peut en citer un certain nombre qui ont eu une année, comme on dit, sabbatique pudiquement, mais c'est extrêmement rare. On a vu Jenson Button revenir faire une pige, on a vu Nigel Mansell, on a vu Alain Prost, hein, si on reprend un très bel exemple, Alain Prost partir et revenir. Mais c'était une autre époque, je le répète, on ne peut pas comparer. Il y avait beaucoup plus de baquets disponibles, avec uniquement 20 baquets sur la grille. Et la situation, si on prend les équipes une par une, on comprend bien aujourd'hui que, et je le répète, la moitié de la grille, directement ou indirectement, est financée par des annonceurs, des partenaires, appelle ça comme tu veux. Donc c'est, le talent est là, c'est le cadre sel, hein, et tu vas, on le dit tout de suite, on va pas réduire son accession au fait qu'il est britannique, il arrive dans une équipe britannique et qu'il est forcément soutenu par des annonceurs, mais c'est quand même très dommage que la majorité, entre guillemets, du recrutement s'effectue pour la moitié de la grille, uniquement sur des critères budgétaires.
Nicolas a composé le 32-16, il est avec nous. Salut Nicolas.
Salut, ça va?
Ça va très bien, et toi?
Bah ça va. Il faut être, enfin j'écoutais Jean-Luc que je salue bien bas parce qu'il a accompagné il accompagne ma passion de la Formule 1 et des sports mécaniques depuis des années.
Salut Nicolas.
Donc non mais on est quand même dans une situation, enfin là pour le coup je vais être un petit peu tristoun, mais on est quand même dans une situation, la Formule 1 est malade au sens vraiment à une maladie qui la ronge maintenant depuis des années. Vous vous rendez quand même compte que Esteban Ocon, qui est quand même dans les petits papiers de Toto Wolff, n'arrive pas à trouver de baquet. Enfin, encore il ferait pas de performance. On se dirait bon, c'est pas trop grave quoi. À la limite, ce sera. Mais il fait des super performances et il se retrouve quand même arbitré par des pilotes. J'ai rien contre par exemple Russell, qui est bon malgré tout, qui fait quand même des belles courses en GP2, qui a fait un beau championnat de GP3 pour son accession en GP2, enfin en F2 pardon. Mais il y a un moment donné, on marche sur la tête. Quand vous regardez, c'est vrai, comme disait Jean-Luc, quand on regarde la grille, c'est quand même des gens qui apportent. Alors, il y a toujours eu des pilotes payants. Même quand, pour les plus vieux, rappelez-vous d'Andrea De Cesari, son papa, il était patron d'un fabricant de cigarettes en Italie. Bon, ça l'aidait à trouver des baquets. Mais enfin, maintenant, c'est le ticket d'entrée, il est beaucoup trop gros, même si vous connaissez bien. Regardez, prenons l'exemple de Pérez, qui est quand même assez bien accoquiné avec Carlos Slim, le milliardaire mexicain. On est quand même en train de se demander si Sergio Pérez il sera pilote l'année prochaine. C'est pas quand même assuré. Il y a quand même beaucoup de doutes. Donc on est vraiment dans une Formule 1 qui est malade, et qui est malade du spectacle qu'elle propose en piste, parce qu'il faut quand même être honnête, c'est quand même pas génial à regarder pour beaucoup de cas. Et vous avez d'un autre côté, vous avez pas des pilotes qui ont un baquet en fonction de leur capacité, mais en fonction quand même de leur mallette, et ça devient de plus en plus évident.
Et ça passe forcément, messieurs, Nicolas, Jean-Luc, par des solutions radicales, puisque ce ne sont pas de petits ajustements qui peuvent régler ce genre de crise, qui est une crise existentielle pour la F1 finalement, Jean-Luc.
Ben écoute, tu sais, je vais te ressortir l'expression, tu vois pourquoi, il faut sauver le soldat F1.
Je sais pas pourquoi tu dis ça, vraiment, je vois pas.
Ben écoute, je crois que tout est dans le bouquin, c'est-à-dire qu'en deux mots comme en mille, il faut repartir de zéro, mais j'insiste vraiment. Alors, on va parler du moteur, mais là, il faudrait 3 heures d'émission, et je ne sais, malheureusement, on ne les a pas, et je sais que Nicolas va adhérer, il est jeune, mais il a des références, comme je peux les avoir. Le problème, c'est que ce moteur est un gouffre à pognon, il faut le dire clairement. Là aussi, on claque un pognon dingue pour rien, pour de la présumée recherche technologique. Il faut le dire crûment, aujourd'hui c'est pas là que ça se passe, ce sont des milliers d'ingénieurs dans les usines qui travaillent là-dessus pour les voitures de tous les jours. Alors bien sûr on va toujours brandir cet étendard en disant oui mais la compétition ça permet de c'est pas vrai, aujourd'hui c'est l'inverse, voilà, Il faut le dire crûment. Donc ça, c'est le premier problème. Les pneus en bois, une nouvelle fois. Ah ben évidemment, Pirelli redoute qu'un pneumatique explose. Le dernier de mémoire, c'était la Ferrari de Vettel en Autriche. Tu vois, je m'en rappelle bien, devant tout le monde. Donc plus jamais ça, a-t-on dit, du côté de chez Pirelli. Donc maintenant, on nous sort une huitième gomme, tiens-toi bien pour le sec, prétendu hyper, ultra, généralement soft. Ça devient grotesque et ce sont des pneus en bois et les pilotes font 30 tours avec. Donc, tu vois, tu les prends un par un. L'aéro, dès qu'un pilote se rapproche de celui qui est devant lui, il ne peut pas le dépasser à la régulière, il faut le DRS. Donc, enfin voilà, tu vois, il faut repartir surtout, de zéro.
Vas-y,
si
Nicolas.
Si je peux me permettre, il faut, Jean-Luc, évidemment, t'as 100% raison, mais il faut voir aussi que derrière, la Formule 1 ne se rend pas compte, et je pense très sincèrement qu'il ne se rend pas compte, des différents championnats qui existent ailleurs dans le monde. Moi, j'ai suivi, je suis depuis des années, d'ailleurs, grâce à Jean-Luc aussi, le championnat IndyCar. Moi, j'ai connu les grandes époques de l'IndyCar, je connais le schisme en IndyCar qui a failli tuer le championnat. Maintenant, c'est en train de revenir, mais quand vous regardez, en fait, vous savez ce qui manque en Formule 1? C'est l'espoir de voir le pilote qu'on soutient faire un bon résultat. En Formule 1, il n'y a pas d'espoir. Moi, je soutiens Nico Hülkenberg, j'adore ce pilote. Et j'ai aucun espoir, sauf un cataclysme qui fasse, cette année, je parle peut-être l'année prochaine, cette année, il n'y a aucune chance qu'il fasse une vitesse, je ne veux même pas pousser une victoire, qu'il fasse une deuxième place, une troisième place, il n'y a aucune chance.
D'ailleurs, tu sais, juste parenthèse, une stat à propos d'Hülkenberg, c'est le pilote qui a disputé le plus de Grands Prix en F1 sans faire de podium.
Oui, c'est Chris Amon quasiment, j'espère qu'il ne va pas.
Messieurs, on va avancer. Nicolas, tu restes avec nous parce qu'on a encore pas mal d'infos à vous donner à propos de la Formule 1. Jean-Luc, tu disais tout à l'heure que ça manquait de baquets. En tout cas, ça manque pas de Grand Prix. Le calendrier pour la saison prochaine a été annoncé. 21 dates. La saison est rallongée. On embrasse Lucas Vinois qui nous écoute peut-être et qui va avoir du boulot l'année prochaine. Ça commencera le 17 mars en Australie, donc une semaine plus tôt que cette année. Et ça se terminera le 1er décembre. Pour la première fois, Jean-Luc, la Formule 1 pousse son calendrier jusqu'au mois de décembre à Abu Dhabi. 21 Grand Prix. En fait, ça change. Il y a très peu de changements. Simplement, on a espacé quelques dates, quelques grands prix, notamment pour pas avoir un enchaînement de trois courses consécutives en Europe à l'été, Jean-Luc.
Ben voilà, tu as parfaitement résumé, on ne change rien. Alors là aussi, c'est vrai que Liberty Media nous avait annoncé des changements formidables, des grands prix, ben notamment à Miami. Alors il va y avoir une démonstration, mais je n'y crois pas une seconde. On a parlé du Vietnam, on a parlé de la Hollande. Alors je sais que c'est à l'étude, même sur le circuit moto, tu vois, de d'Assen. Ouais. Pour le moment, on ne voit rien venir. Et puis là aussi, il y a des dissensions, et certains se sont élevés, l'ont dit clairement, sur le nombre de grands prix que pourrait comporter le calendrier. Tu sais que les équipes, tu parlais de Lucas et tu as raison, les équipes de journalistes, mais surtout les équipes de course, les équipes de mécaniciens, sont à la limite, à la rupture. Ils n'ont pas les moyens d'engager une deuxième équipe pour fonctionner en tiroir, tu vois. C'est-à-dire que les personnes puissent se remplacer. Et tu sais que je tiens ce chiffre du docteur Jacques Troptin, qui est un de mes amis, qui a été longtemps le médecin de la Formule 1. Il y a un taux de divorce de plus de 80% en Formule 1. On comprend pourquoi, évidemment.
Évidemment. Nicolas, est-ce que toi t'aimerais voir de nouveaux grands prix apparaître? Est-ce que t'aimerais qu'il y ait de nouvelles dates, de nouvelles destinations au calendrier? Ou c'est peut-être pas, hein, peut-être qu'il y a tout ce qu'il
faut. J'ai envie de te dire, à la limite, why not? Mais après, c'est toujours pareil, c'est que moi je vais être un petit peu abrupt, mais fondamentalement, moi qu'on court au Vietnam, qu'on court à Miami, qu'on court à Saint-Pétersbourg, qu'on court où on veut, moi ce que je veux surtout voir, c'est des grands prix intéressants et disputés. Le problème, il est toujours le même. Les grands prix, qu'il y en ait beaucoup, à la limite, moi, j'ai pas de souci. Moi, je suis la saison NASCAR. Alors, au niveau course, en grand nombre, je crois que je suis servi. mais c'est vrai que après, il y a toujours ce côté aussi, ce côté paradoxal. C'est que c'est bien d'aller faire une course, par exemple, à Singapour. C'est très spectaculaire de voir les voitures tourner de nuit sur un circuit en ville. C'est très, très bien. Mais il faut que la course, elle soit excitante à suivre. Moi, j'ai qu'on aille tourner à Zandvoort, qu'on aille tourner n'importe où. Moi, fondamentalement, je m'en fiche. Moi, ce que je veux voir, c'est des grands prix disputés et des circuits qui sont dessinés aussi pour aider au dépassement et à l'action en piste. En toute sécurité, bien entendu. Mais c'est ça, moi, qui m'importe le plus. Moi, ils peuvent en mettre 25, hein, s'ils veulent. Hein. Et moi, j'ai pas de soucis, je les regarderai.
Mais tu les regarderas.
mais bon, à un moment donné, je crois pas fondamentalement que le problème soit dans les nombres. parce que dans les nombres de courses, parce qu'il y a des, à une époque c'était 16 grands prix maximum, c'était même marqué dans le règlement il y a pas mal d'années de ça, et ça donnait des saisons qui étaient vachement intéressantes.
Le Grand Prix de France, ça sera le 23 juin pour info, je vous ai pas donné la date.
Après, on voit que ça décale aussi entre les petites équipes et les grandes équipes, on rentre encore dans le problème. C'est-à-dire que celui qui a les moyens de se payer des équipes doubles, entre guillemets, pour tenir la saison, bah, il a tout de suite un avantage concurrentiel sur celui qui a pas les moyens d'avoir des équipes
doubles.
Alors,
attends, parce que après, ça dépend aussi où sont basées les équipes, parce qu'on va pas rentrer dans ce genre de débat, mais simplement, en fonction des normes juridiques et du droit du travail de certains pays, les règles diffèrent et il y aurait des équipes qui auraient besoin d'avoir une équipe de secours et d'autres qui pourraient pousser les actuels titulaires un petit peu plus longtemps. Voilà.
Exactement.
Une autre information, celle-là plus sur le mode du sourire avant de parler de Lewis Hamilton et de Sébastien Vettel la semaine prochaine. Humain, trop humain, on peut être pilote de Formule 1 et avoir quand même des difficultés à sortir de son parking. Il s'appelle Kimi Raikkonen, champion du monde 2007 et il s'est vu infliger, c'était en mai mais l'information est sortie cette semaine, une amende de 350 francs suisses, vous savez qu'il réside en Suisse, le Finlandais, après avoir embouti un véhicule garé à la sortie de son domicile dans le canton de Zoug. Voilà, donc même un champion du monde peut faire des erreurs de pilotage. On le savait en piste, ça marche aussi dans un parking.
C'était à quelle heure de la journée, Louis?
Ça, l'histoire ne le dit pas, mais c'est vrai que c'est un détail d'importance. On n'a pas forcément besoin de réagir là-dessus, je voulais juste vous donner cette info qui m'a fait sourire ce matin.
Rigolo.
Encore un mot de Formule 1, parce que la semaine prochaine, c'est un dimanche de titre qui nous attend peut-être. Ça se passera à Austin, aux États-Unis, au Texas. Ça sera à 20h10, heure française. Sébastien Vettel peut définitivement voir ses espoirs s'envoler. Et Lewis Hamilton conquérir une cinquième couronne, il lui faudra marquer 9 points de plus que l'Allemand. Jean-Luc, est-ce que ça sera fait tout simplement? Est-ce que ça sera bon?
Bah écoute, logiquement oui, puisque Lewis Hamilton est à domicile une nouvelle fois, mais où n'est-il pas chez lui, hein, puisqu'il l'a emporté, tu le sais, à 5 reprises sur le tracé, 6 reprises même, je dis une bêtise, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, donc on voit pas très bien Vettel compte une victoire en 2013, et surtout sur sa forme du moment, et avec les erreurs à répétition que commet Vettel, rien n'est jamais fait, évidemment, c'est un sport mécanique, un sport de vitesse, un sport dangereux, mais logiquement, d'abord il va décrocher la pole, je le pense, et puis il est tout droit sur la route du titre, et il est parfaitement mérité, on l'a dit et redit, on ne prend pas position pour l'un et contre l'autre, mais au vu de son parcours exceptionnel, surtout évidemment depuis le break, hein, Hamilton mérite largement ce cinquième titre et ferait de lui l'égal de Fangio.
Si Hamilton l'emportait et que Vettel terminait troisième, cela suffirait au bonheur du Britannique. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous, d'avoir composé le 32-16.
Merci,
à très
Nico.
Vite, tu as ta médaille de citoyen d'honneur de Motors. Tu reviens tous les dimanches quand tu veux. Et nous, dans un instant, avec Jean-Luc et avec Benoît Boutron qui vient d'arriver, on parle d'endurance. Romain Dumas sera notre invité. À tout de suite dans Motors.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC 13h-14h Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h28 sur RMC, merci d'être avec nous. Motors en direct jusqu'à 14h. Dans un quart d'heure, une question: Mick Schumacher peut-il marcher dans les pas de son père? On parle du jeune champion d'Europe de F3 dans Radio Paddock. Avant cela, l'endurance. Deux courses nous préoccupaient ce week-end: les 6 heures de Fuji au Japon et le Petit Le Mans. Ça se passe aux États-Unis comme son nom ne l'indique pas. Salut Benoît Boutron.
Salut Louis, salut le King. Salut Jean-Luc.
C'est pas les Browns, le King chez nous.
Non, c'est Jean-Luc.
Ils sont presque au même endroit. Ils sont pas loin.
C'est vrai.
D'abord Benoît, avant d'entendre Jean-Luc et d'entendre notre invité Romain Dumas, multiple vainqueur des 24 heures du Mans, qui sera avec nous dans quelques instants. Les résultats, on commence par le WEC, le championnat du monde d'endurance, donc au Japon, au Mont Fuji.
C'est 6 heures de Fuji, effectivement, avec un doublé Toyota. Donc Toyota a la chance de gagner à domicile. Victoire de la Toyota numéro 7 avec Conway Kobayashi. Ça vous rappelle forcément des souvenirs de Formule 1. Et José Maria Lopez devant la numéro 8 d'un certain Fernando Alonso.
Ça nous rappelle des souvenirs aussi en F1.
Sébastien Buemi est là aussi, donc ça aussi ça nous rappelle la F1.
Ah,
et Nakajima, donc les trois ont été dans cette Toyota numéro 8. On a eu une belle course, honnêtement c'était assez sympa les 6 heures de Fuji, parce qu'on a eu beaucoup de pluie sur le premier tiers du parcours, et ensuite la piste a séché. Ce qu'on peut retenir, c'est justement l'énorme performance de Kobayashi. Jean-Luc, je ne sais pas si tu as vu ça, mais en gros il a fait un raid solitaire d'environ plus de 2 heures, et c'est lui qui a vraiment creusé l'écart pour offrir la victoire à la Toyota numéro 7.
Ah ben oui, tout à fait Benoît, et tu as raison de le souligner. D'abord, quand les conditions météo, et c'est pour ça qu'on appelle la pluie de nos voeux très régulièrement en Formule 1, tu vois ce que je veux dire, ça permet effectivement au pilote de démontrer son talent dans des conditions particulières. Là, c'est la grande valeur du pilote, et en endurance, il a le temps de s'exprimer. Quand il fait comme ça un double relais, c'est une évidence.
Il y avait un beau plateau, hein. Il y avait un beau plateau, oui, justement, Benoît, j'allais t'en
franchement,
parler.
Quand on regarde le nom des pilotes qui ont participé à cette course, c'est assez impressionnant. Quatrième place, on a SMP Racing avec un certain Jenson Button. Là aussi, quand ça même. Me rappelle quelque chose. Oui. On a également Jean-Éric Vergne qui était là. Lui, il termine 9e. D'ailleurs, c'était une équipe 100% française. TDS Racing avec François Perraudeau et Mathieu Vaxivière. Du beau monde, hein, Jean-Luc, dans cette catégorie. C'était assez sympa. C'est 6 heures de Fuji.
Ah ben bah oui, puis le troisième, Rebellion Racing, on va en parler avec Romain dans un instant, qui avec termine Bruno à 4 tours. Et oui, quand même, ça fait mal, hein. Bruno Senna avec Neil Jani et André Lotterer, que connaît très bien Romain également. Non, c'est du haut niveau, comme tu dis, Button, ancien champion du monde de Formule 1, Alonso, double champion du monde de F1, bah il y a des grilles fantastiques. Et puis, il y a effectivement, il y avait une bonne trentaine, 34 je crois, engagés, ouais. Y compris les GT. Et non, c'était, je te dis, dès qu'il pleut, ça fournit des courses très spectaculaire.
Et donc également au programme ce week-end, Benoît, cette course qu'on appelle le Petit Le Mans. Avant que tu nous en donnes les résultats, c'est quoi cette histoire de Petit Le Mans, Jean-Luc, là ?
Ah bah écoute, c'est une appellation, et là je vais rendre hommage à un homme que là aussi que Romain connaît bien, qui s'appelle Don Panos. Alors Don Panos, c'est quelqu'un qui a produit des voitures, des machines, sa propre marque, hein. Il y avait notamment une Panos Esperante et puis une voiture à trois roues, tu sais, tu te rappelles de cette Delta qu'on a vu apparaître, et effectivement, bah voilà, et bah c'était Don Panos qui nous a quitté il y a quelques mois, et qui était un personnage absolument fantastique, totalement passionné de sport automobile et d'endurance, qui est venu au Mans avec ses propres machines, et c'est quelqu'un à qui on a rendu hommage d'ailleurs. Donc cette appellation de Petit Le Mans, c'est une épreuve de 10 heures en fait, qui se déroule à Road Atlanta, là aussi un circuit que Romain connaît très bien, parce qu'il a remporté le titre à LMS à plusieurs reprises il y a une dizaine d'années. Et donc c'est là aussi c'était une course absolument fantastique et très disputée. Cadillac l'a emporté, mais au dernier moment, parce que l'autre est tombé en panne d'essence dans le dernier tour. Donc tu vois, c'était
ah fou. Oui, justement, Benoît, raconte-nous cette scène incroyable.
Et c'est dommage parce qu'en plus un Français aurait pu gagner. Vous avez suivi ça forcément, Jean-Luc, toi tu as suivi, mais Tristan Vautier était invité surprise un petit peu de cette course. Il faisait partie effectivement de cette équipe Mustang Sampling Racing, et il était extrêmement bien placé, mais à trois tours de l'arrivée, petit souci d'essence pour son équipier Felipe Albuquerque, manque d'essence, perte de vitesse, et du coup cette équipe qui termine seulement quatrième sur une course d'endurance, il n'y a pas pire, Jean-Luc, c'est horrible ce qui lui arrive.
Ça fait partie du jeu. Là pour le coup c'est normal, on essaie de faire un ravitaillement de moins, qui est toujours pénalisant. On essaie de bien remplir un splash and dash, parfois on s'arrête juste, tu sais, très peu de temps pour remettre un peu de carburant quand on a un doute. Bah là on devait pas l'avoir chez Cadillac. Bon, tant mieux pour eux, c'est quand même une Cadillac, celle de Van der Zen, Taylor et Hunter Ray qui s'impose, mais c'est vrai que ça a été chaud. Les deux Mazda étaient vraiment juste derrière, elle termine après 10 heures de course, tu te rends compte, la deuxième est à 5 secondes. La troisième à 7 secondes.
C'est plus serré qu'en F1.
C'est vrai qu'en F1.
Bon, décidément, il y a du boulot. On va demander à notre invité s'il a déjà connu ce genre de mésaventures. Bonjour Romain Dumas.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct dans Motors. Romain, ça vous est déjà arrivé de tout perdre à la toute fin comme ça d'une course d'endurance pour une bêtise comme une panne d'essence ?
C'est pas une bêtise, hein. C'est un choix stratégique, comme Jean-Luc vous l'a dit. Moi, je suis tombé en panne une fois. Aux 24 heures de Nürburgring à 23h59. Donc, vous voyez, si vous avez 23h59, c'est un peu embêtant de pas en faire 24. Mais voilà, c'était pas pour la victoire, c'était pour une troisième place à l'époque. Mais ce qui s'est réellement passé, ou ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que tout le monde essaye de mettre le moins d'essence possible en se disant on va économiser d'essence, parce que là, c'est très difficile, comme toute course de voiture, pour se dépasser. Donc si à chaque arrêt au stand, ou tout du moins le dernier arrêt, on met une seconde ou deux de moins que son petit copain, on va forcément le doubler dans la voie des stands, et puis après à nous d'essayer de le contenir en économisant l'essence. C'est ce qui s'est passé, en tout cas, c'était pas le cas que des deux premiers, c'était le cas des cinq premiers qui vont au chat à la souris avec ça. Nous, à ce moment-là, on était sixième et on avait l'essence pour finir, donc on s'est dit, ben, tout le monde va ravitailler, et en fait, les Cadillac sont arrivés à tout à coup à faire trois, voire quatre tours de plus que ce qu'ils ont fait pendant les neuf premières heures, et voilà, il y en a, donc il y en a un qui est mais il y a quand même une
Cadillac
qui l'a emporté.
Jean-Luc.
Oui, Romain, bah d'abord, je te salue à nouveau et c'est un immense plaisir de t'avoir sur l'antenne de RMC où tu es chez toi, tu le sais. Et puis ce que j'apprécie énormément, tu vas rosir, mais chez toi c'est l'éclectisme de ton talent. Parce qu'on va même dire, on va même rappeler que tu avais réalisé des tests pour une équipe de Formule 1, pour l'équipe Renault, pour ne pas la nommer. Donc tu as touché un peu à tout et évidemment tu avais largement le talent pour t'imposer en F1. On va pas parler de ça. Si tu veux bien, on va parler, on va commencer par ce qui s'appelait à l'époque la LMS American Le Mans Series, que tu as remporté à plusieurs reprises pour l'équipe Penske. Alors justement, les circuits là-bas, hein, notamment celui de Road Atlanta, là pour le Petit Le Mans, là c'est quelque chose. Et on va préciser que tu l'avais emporté avec une Porsche de l'équipe Penske, donc je le disais, qui était pas forcément la meilleure sur le papier, hein, mais c'était un équipage formidable.
Ouais, bon, la course aux États-Unis est complètement d'endurance, est complètement différente du WEX, ce qu'on vous parliez juste avant. Ce sont des courses, c'est des circuits à l'ancienne. Il n'y a aucun track limite, la course là-dedans, c'est simplement tout le monde, c'est très agressif, tout le monde roule à 100%. C'est toujours très serré. En fait, si vous regardez le classement, je pense qu'il y a 8 voitures à la fin à 1 minute 10. Oui. Au bout de 10 heures, donc ça n'a rien à voir avec le WEC où il y a beaucoup plus d'écart. Après, tout le monde a à peu près les mêmes voitures, c'est-à-dire on appelle ça des Daytona prototypes ou des LMP2. En qualification, par exemple, vous aviez 10 voitures en 3 dixièmes. Donc les courses sont faites pour... C'est réservé vraiment au spectacle et à la stratégie. C'est tout un autre format, un autre style. Qui marche bien, puisque ça fait quand même, comme vous étiez en train de le dire, plus de 10 ans que ce championnat-là est un petit peu le championnat, en tout cas spectacle de l'endurance, où en fait on peut suivre une course pendant 10 heures sans savoir qui va gagner. La première année, ça a été décidé dans les 3-4 derniers tours.
Exactement, et c'est ça qui est absolument formidable. Alors Romain, je le disais, tu as exercé tes talents et tu as remporté évidemment deux fois Le Mans, notamment pour Porsche, hein, pour Audi et pour Porsche. Allez, on va pas résister à ce plaisir-là. Après, on va parler justement de l'effort que fait le WEC pour essayer d'équilibrer les performances. On voit qu'ils n'y arrivent pas vraiment. J'allais te dire, cette victoire avec la Porsche, c'était une sorte d'aboutissement pour toi qui est amoureux de la marque depuis toujours?
Ah oui, allez, c'est sûr, c'est en 2016, on a l'impression déjà que ça fait quelques temps. Mais oui, j'avais eu la chance de gagner avec Audi, mais toutes mes autres 24 heures, je les ai gagnées forcément avec Porsche, que ce soit Nürburgring, Spa, Sebring, on fait les grandes courses, quoi. Et forcément, Le Mans était un petit peu l'aboutissement de toutes ces années-là. Maintenant, à la fin du compte, tout le monde se rappelle 2016 avec la fin tragique, quand on parle de fin tragique, celle-là, c'était pour Toyota. Moi, ça m'avait permis de l'emporter. À l'inverse, en 2015, on avait largement le potentiel pour l'emporter. On a eu un problème technique. Mais c'est comme ça, c'est l'endurance. Et l'endurance a un charme incroyable. C'est parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est pas écrit. C'est toujours beaucoup de rebondissements. Et c'est d'ailleurs ce que les gens aiment. Et c'est pour ça que les États-Unis font que ces courses d'endurance-là, ben, les gens les adorent parce que ça tient en haleine 10 heures, 12 heures, etc. On pourrait dire on n'aime pas la monotonie, même les pilotes, etc. On aime les rebondissements. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ça a toujours été ça. Et c'est ce qui fait que tu trouves l'endurance sympa. À chaque fois que tu montes au volant, même si c'est pour une heure ou pour deux heures, tu es obligé de rouler à fond de tes capacités. On n'a plus la notion de gérer la machine aujourd'hui. On roule à 80%. Moi, par exemple, je roule à 99%. Pas à 101% parce qu'on sait qu'on va avoir un problème. Mais on est quasiment à la limite. Et c'est ce qui est super. C'est presque des grands prix qui durent pendant 24 heures ou 12 heures. Voilà.
On parle d'endurance et Romain Dumas est l'invité de Motor sur RMC, Jean-Luc.
Et oui, on va rappeler, à propos de la LMS, là je reviens aux États-Unis, hein, Romain, il a remporté 21 victoires sur 49 courses disputées. Je pense que c'est un record qui doit être inégalé, Romain, si je ne m'abuse. En plus, tu avais gagné naturellement les 12 heures de Sebring aussi en 2008. Hein.
Oui, bon, écoutez, je savais même pas la
statistique. Ah, bah, tu vois.
Mais, c'est sûr que c'était des courses, c'était des courses assez incroyables. Ça fait quelques années que je ne courais plus aux États-Unis. J'ai repris cette année. J'ai fait que les courses longues, c'est-à-dire Daytona, Sebring, Watkins Glen et donc Petit Le Mans ce week-end. Et je dois sincèrement vous avouer que c'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est sûr que ma carrière d'endurance, il y en a un peu plus derrière moi que moi, hein, faut pas rêver. J'ai commencé à LMS en 2003, donc aujourd'hui j'ai 40 ans, donc je pense pas que je pourrais avoir ce niveau dans 17 ans, autant vous dire. Mais on ne peut pas bouder ce plaisir-là, c'est incroyable. Hier, j'ai encore pris un plaisir fou. où tu roules vraiment à 100%. J'ai conduit sur 10 heures, j'ai conduit 4h51, donc autant vous dire, j'étais quand même assez, pour trois pilotes, j'étais assez fatigué, mais non, c'est un vrai plaisir. Et je pense que la chance qu'on a ici aux États-Unis, c'est justement ce qu'on parlait, c'est d'avoir une BOP assez équilibrée qui permet que les courses restent très ouvertes.
Et voilà, on arrive au sujet. Alors, je rappelle que tu as terminé septième avec Bennett et Brown, hein, sur une machine du corps Autosport, une Oreca Gibson, et à 56 secondes seulement après 10 heures du vainqueur. Donc, c'est tout dire. Romain, tu parlais de la BOP. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. C'est la Balance of Performance. C'est un système qui permet d'essayer de rééquilibrer les performances. Alors, on va revenir au WEC, si tu veux bien, avec Toyota. Je crois qu'on avait mis 26 kilos de plus au Toyota, au Mont Fuji, pour essayer de permettre aux autres machines en LMP1 de les égaler, mais ça n'a pas fonctionné, hein, puisque on termine à 4 tours pour la première des machines du Rebellion Racing.
Oui, bon, ça, vous savez, c'est toujours une discussion un petit peu sans fin. On pourrait parler peut-être comme ça. Pourquoi ça? On ne peut pas comparer, si vous voulez, Toyota ou nous, Porsche, à l'époque, on était en LMP1, où on va parler de budgets qui sont au bas mot, 6, 7, 8 fois plus important qu'une équipe LMP1 privée. On en revient, si vous voulez, 10 ans en arrière avec Henri Pescarolo qui se battait contre Audi. Au bout d'un moment.
Et qui avait terminé deuxième. Moi,
je m'amuse à faire, voilà, je m'amuse à faire des rallyes avec une Porsche contre des constructeurs. On sait très bien que tu ne pourras pas gagner si tu es un privé. Alors, on essaye de balancer ça, effectivement, mais il faut pas oublier derrière que, effectivement, il y a d'un côté le spectacle, donc on essaye de balancer, mais d'un autre côté, pour l'organisateur, il y a aussi le fait que, Toyota a aujourd'hui quand même un pouvoir de frappe sur Le Mans et sur le championnat qui est beaucoup plus important que Rebellion, qui est une petite équipe suisse, ou Pescarolo qui était à l'époque tout seul entre guillemets au Mans contre l'ogre Audi. Donc c'est très difficile de balancer tout ça. N'oublions pas qu'une Toyota est une 4 roues motrices alternative. Dès le moment, il y a un système hybride. Vous imaginez bien hier quand il a plu l'écart qu'on peut avoir quand on a 4 roues motrices à l'accélération ou quand on en a 2. Donc, si la météo en plus s'en mêle, ça fait vraiment des écarts assez incroyables. Et je dirais que c'est quasiment impossible de trouver la solution. Moi, je rêve, je pousse toujours, et c'était déjà le même cas il y a 10 ans pour Pescarolo, même quand j'étais chez Audi, à dire oui, on espère que les privés vont mener la course pendant quelques temps, même si à la fin, vous savez, si on donne d'un coup 200 chevaux de plus à Rebellion, ben, ils mèneront peut-être la course 2-3 heures, mais dans tout ça, la mécanique va faire qu'elle ne va pas tenir sur la distance, mais au moins le spectacle sera là, voilà. Donc,
eh oui. Allez, Romain, une dernière question, mais on... Vaste sujet, ben en voilà un autre, tiens, ça tombe bien. La fameuse super saison qui est de rigueur en endurance, qui a commencé le 5 mai, c'était aux 6 heures de Spa-Francorchamps, 5 mai 2018, et qui va se terminer par les 24 heures du Mans, décision des organisateurs, hein, au mois de juin, les 15 et 16 juin 2019. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce changement de calendrier qui va maintenant courir sur 2 années calendaires, en fait, en endurance?
Si c'est la solution pour permettre aux gens et aux constructeurs surtout d'être plus impliqués dans un championnat d'endurance, je dis pourquoi pas. Après, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas... C'est bien d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de maintenir tout le monde en haleine, de penser que l'endurance peut un jour être au niveau de la Formule 1, ce qu'en 2016, le monde était en train de croire, mais on a vu que rapidement le château de cartes d'un coup a pris un petit coup suite au retrait des constructeurs. Maintenant, à la fin du compte, si ça peut permettre au championnat de marché, pourquoi pas, mais je suis plus le genre à dire regardons ce qui s'est passé les 20 dernières années, essayons d'analyser aussi les erreurs et essayons de pas commettre de nouvelles erreurs. Voilà, c'est plutôt ça mon point de vue. Donc ce que j'en pense, c'est simplement essayons de comprendre et d'aller de l'avant, mais surtout avec l'expérience qu'on a du passé. Le Mans, il y a 20 ans, il y avait péniblement 40 voitures sur la grille. Et en majorité, c'était des privés qui étaient là. Donc, je pense qu'il ne faut pas retomber surtout dans ce travers-là.
Merci beaucoup Romain Dumas d'avoir été l'invité de Motors.
Merci Romain.
À très vite sur RMC. 13h44, dans un instant, Motors se poursuit. On évoquera Mick Schumacher, champion d'Europe de Formule 3, et la moto dans Radio Paddock. À tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h47 sur RMC, Motors, en direct jusqu'à 14h. Vous retrouverez ensuite Christophe Cessieux pour l'Intégral Sport, au programme notamment la suite de la première journée des Coupes d'Europe de rugby. 3 clubs français engagés ce dimanche. Tout de suite, Radio Paddock.
C'est Motors.
World champion! Oh my god!
Radio Paddock.
L'actu de la semaine en sport méca avec toi, Benoît Boutron, évidemment. Oui. Et la première nouvelle, c'est arrivé ce week-end. C'est un titre pour Mick Schumacher, le fils de son père.
Ça a été officialisé effectivement hier après-midi. On est dans le week-end à Hockenheim. Et donc, il a terminé deuxième de la deuxième course du week-end. Mick Schumacher, fils du grand Michael Schumacher, évidemment. Il a tout juste 19 ans. Et il est devenu donc champion d'Europe de Formule 3. Donc, il lance parfaitement sa carrière à tout juste 19 ans. Il a fait preuve de beaucoup de régularité et forcément, quand on s'appelle Schumacher, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de publicité. Donc ça y est, c'est officiel, Mick Schumacher est bien le champion d'Europe de Formule 3.
Jean-Luc, d'abord, pour cadrer l'info, qu'est-ce que c'est que la Formule 3 ? Est-ce que c'est compétitif ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est un vrai beau titre ?
Ah oui, c'est un vrai beau titre. Oui, oui, c'est un championnat formidable. On peut regretter d'ailleurs qu'il n'y ait plus de championnat de France de Formule 3 dont était issu à l'époque Alain Prost. Enfin, je vais pas te faire la liste. Tous ont été Olivier Panis, tous les pilotes, Éric Comas, Jean Alési, enfin, ont été champions de France de Formule 3. Là, c'est un championnat international de très grande importance où il y a beaucoup de mixité, beaucoup de circuits variés. Bon, là, Mick Schumacher avait pu intégrer pour sa deuxième saison en Formule 3. La première avait été un peu moyenne, il faut bien le dire. Mais il a intégré l'équipe Prema Theodore Racing, qui est la meilleure du plateau, carrément. Et puis, il a couru avec sa tête. Hein. Quand on veut décrocher un championnat, on le fait avec intelligence. Benoît vient de le rappeler, il a terminé deuxième de l'épreuve hier, ce qui lui assurait déjà le titre. Et deuxième à nouveau de la deuxième épreuve derrière Schwartzmann. Donc, avec 365 points, il devance Dan Ticktum, qui n'en compte que 306. Oui, donc c'est un championnat de premier niveau. Alors, on ne veut pas précipiter les choses, même si j'ai déjà entendu un certain Mauricio Arrivabene, tu vois qui c'est, oui. Lucas, dire « Oh ben, on l'accueillera quand il voudra ». Bon, évidemment, oui. un autre Schumacher chez Ferrari, on imagine.
Le problème, c'est qu'il sera peut-être déjà plus là, Mauricio Arrivabene, parce que...
C'est possible.
Voilà, c'est ça, avec les résultats de la Scuderia, il risque de pas faire long feu. On parlait de l'adversaire de Schumacher en Formule 3, il y a eu, pas une passe d'armes, mais un petit accrochage entre les deux par les réseaux sociaux interposés.
La saison a été un petit peu coupée en deux, c'est vrai que Mick Schumacher a eu beaucoup de régularité sur la deuxième partie de saison, et ce qui est assez marrant, effectivement, entre les deux, c'est que cet été, le fameux Dan Ticktum a tweeté un message suspicieux qu'il a vite effacé d'ailleurs, mais qui a été capté par les internautes. Il avait tweeté « Quand on s'appelle Schumacher, c'est forcément plus facile ». Il avait tout de suite effacé, mais forcément Mick Schumacher a dû répondre à cette polémique. Et il s'est pas dégonflé, en tout cas le fils de Michael Schumacher. Il avait dit « Effectivement, mon nom m'ouvre des portes, mais ensuite il faut faire le travail ». C'est ce qu'il a fait cette année en Formule 3. Il a beaucoup progressé en régularité, mais c'est vrai que forcément, quand on s'appelle Schumacher, il y a plus de facilité. On parle déjà, pourquoi pas, de Formule 2 pour lui. On l'imagine en Formule 1 et on sait que les partenaires historiques de son père sont prêts à investir pour sa carrière. Donc forcément, il a quelques avantages, Mick Schumacher, Jean-Luc, par rapport aux autres pilotes espoirs.
Bien sûr, non, il faut pas le nier. Je crois que on peut comprendre aussi Dan Ticktum. Là aussi, tu sais, les réseaux sociaux, c'est très bien et puis ça fait beaucoup de dégâts. Bon, ce sont des très jeunes pilotes, hein. Ils ont 18, 19, 20 ans au maximum. Ils sont dans le feu de l'action. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été surpris parce que dans la première partie de la saison, mais je ne sous-entends absolument rien, hein, soyons très clairs là-dessus, c'est grâce à son talent que Schumacher l'a emporté. Mais quand il y a un revirement, bon, on pourrait dire pareil, tiens, d'Hamilton, là, tu vois, puisque Vettel va très bien la première moitié de saison, et puis comme d'habitude, j'allais dire, se prend les pieds dans le tapis et la deuxième est moins bonne. On en revient à la Formule 3. Ticktum, il l'a un peu mauvaise parce que lui, son équipe, c'est Motopack, c'est pas du tout la même chose, hein, et lui, il fallait absolument qu'il soit titré peut-être pour poursuivre sa carrière. Je comprends qu'il ait la pression, alors c'est maladroit de sa part. Là aussi, il faut pas crucifier un jeune pilote de 18 ou 19 ans parce qu'effectivement, parfois, on va dire que ses propos dépassent sa pensée, mais avant, c'était entre deux camions dans le paddock et là évidemment tout de suite ça prend des proportions énormes.
Tu penses qu'on va le voir dans les catégories supérieures vite ?
Mick Schumacher, oui. De toute façon, je pense que là, bon, c'est déjà signé, on veut pas nous le dire et c'est normal, mais la saison est terminée. Bien sûr, il va accéder à la Formule 2 et obligatoirement dans une très bonne équipe, ce qui est normal. Encore une fois, les bonnes voitures et les bonnes équipes, c'est toujours les meilleurs pilotes. Hein. Je parlais de Lando Norris, par exemple, tout à l'heure, qui est un excellent exemple. On peut parler de George Russell. Il y a comme ça des trajectoires qui se confirment. Alors, on a vu, et on en reparle aussi, que ça ne suffit pas toujours avec Ocon ou avec Stoffel Van Zandvoort. Ouais. Voilà deux garçons qui avaient tout gagné jusqu'à la Formule 1. Et puis, tu vois, malheureusement, ça ne suffit pas. Alors, je pense que Mick Schumacher, effectivement, s'il accède un jour à la Formule 1, et je lui souhaite de tout cœur, et ce sera évidemment très intéressant, faudra que ce soit dans de bonnes conditions et dans une bonne équipe. Mais là, c'est clair que son nom va l'aider. Là, on peut pas le nier non plus. Il le sait lui-même. Hein, il est intelligent.
Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être un peu à double tranchant. J'aimerais ton avis là-dessus, Jean-Luc, parce que ça va l'aider peut-être à arriver en Formule 1 pour parler de la catégorie reine, mais ça peut aussi le desservir parce que un Schumacher qui après uniquement 2-3 courses serait déjà dans le dur, ce qui est possible quand on arrive en Formule 1, évidemment ça prendrait beaucoup plus de proportions que s'il s'appelait Dupont.
Bien sûr, c'est pour ça que je parlais, tu vois, de bonne équipe au bon moment. On va prendre l'équipe Sauber et on va prendre Charles Leclerc, tiens, qui lui aussi a tout gagné. Tu vois, voilà une trajectoire magnifique. Ou Pierre Gasly, tu vois, voilà de très jeunes pilotes, encore très jeunes, hein, puisqu'ils n'ont que un ou deux ans de plus seulement que Mick Schumacher, mais qui arrivent dans de bonnes conditions. Toro Rosso pour Pierre Gasly, qui lui aussi avait dû s'exiler entre guillemets au Japon à la demande de son partenaire Red Bull. Mais je pense qu'effectivement, Mick Schumacher, pour être clair, tout le monde est prêt à le faire signer. Donc s'il intègre, d'abord on va prendre les choses dans l'ordre, une bonne équipe en Formule 2 et qu'ensuite il décroche le titre, oui, il faut qu'il intègre. D'abord, il va pas arriver chez Ferrari directement, hein, contrairement à ce qu'on peut penser.
Oui, oui.
Mais s'il arrivait chez Sauber, par exemple, auprès de Frédéric Vasseur, qui est le formateur formidable que l'on connaît, bah là il serait placé dans les meilleures conditions pour peut-être un jour, sait-on jamais, se retrouver en rouge.
Il y a quelques précédents, hein. On peut citer les cas de la famille Villeneuve, par exemple, Gilles et Jacques Villeneuve. On peut parler des Rosberg, alors ça ce sont des glorieux exemples. En moins glorieux, il y a le fils Palmer, par exemple, Julian Palmer, qui a roulé dans les pas de son papa après Jonathan Palmer. Ça s'est quand même moins bien passé, hein, je peux le dire comme ça.
Alors tu sais, tu as raison, mais tu sais qu'il faut apporter un élément de correction. Je connais très bien Jacques Villeneuve, que j'ai connu, moi, à l'époque où juste tiens, on va faire le parallèle en Formule 3.
Très bien.
Ça n'est pas lui faire offense, il doit nous écouter. Il était en Italie, il avait débuté très jeune, le karting, etc. Le fils de Gilles, bien sûr. Jacques, en Italie, n'a pas fait d'étincelle du tout. Ensuite, il est parti au Japon, très courageusement. Et c'est là que sa carrière a pris une autre tournure, parce qu'il est tombé sur un manager qui s'est très bien occupé de lui. Mais au Japon, il était bon, mais sans plus. Moi, je l'ai connu en Formule Atlantique, aux États-Unis, donc qui était en quelque sorte l'antichambre de l'IndyCar. Et là aussi, il était bon, à la limite du très bon, mais absolument pas le meilleur. Et bref, j'en arrive à la conclusion, Jacques a eu besoin d'avoir des machines puissantes, rapides, sur des circuits risqués, pour démontrer son courage et sa bravoure. Il a été ensuite, et ça je l'ai vécu de près, on peut le dire, champion IndyCar, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Il est arrivé en F1 directement par la grande porte chez Williams, à l'époque où Williams-Renault dominait, et il a failli être champion du monde dès la première année, en 96, pour l'être là en 97, tu vois.
Et donc, il a beaucoup été en bataille avec Michael Schumacher, justement, donc l'histoire se mord la queue. Rapidement, parce qu'on voulait en parler quand même, un mot de moto. Il n'y a pas de Grand Prix ce week-end en MotoGP, Benoît, mais un mot sur les positions.
On a eu un dernier week-end en Thaïlande fantastique. C'était le premier Grand Prix de Thaïlande, effectivement, avec cette baston incroyable entre Marc Marquez et Andrea Dovizioso. On a clairement deux hommes qui dominent la catégorie MotoGP cette saison. On rappelle, il y a eu 14 Grands Prix depuis le début de l'année. 10 victoires du duo Dovizioso-Marquez, et c'est vrai que l'Espagnol, champion du monde, est quand même assez impressionnant. Il y a eu ce dépassement dans le dernier virage en Thaïlande, effectivement. Il y a un sacré écart au niveau du classement général, avec 77 points d'avance pour Marquez sur Dovizioso. On a deux styles différents, deux motos très différentes, Jean-Luc, ça nous offre quand même une saison de MotoGP fantastique, hein.
Eh ben voilà, tu as raison Benoît, et c'est pour ça que la moto est formidable, parce que le style du pilote, on le repère tout de suite, hein. Déjà la position sur la moto, parce qu'on le voit, ce pilote, on voit de quelle manière il se déhanche, il se déporte, et Marquez a apporté quelque chose, on peut dire, de nouveau, en travaillant beaucoup sur l'avant et en frottant maintenant le coude, hein, à quand le dessus du gant, enfin ça devient délirant, tu sais, les angles qu'ils prennent, des angles absolument incroyables, qui étaient inimaginables avant que les pneumatiques soient aussi performants. Mais le style de pilotage doit aussi s'adapter à la machine dont il dispose. On va considérer Dovizioso ou Jorge Lorenzo, que les pilotes adorent. J'en parlais avec Christian Sarron, tiens, il n'y a pas longtemps. Christian, qui est un puriste aussi, et qui disait, il n'y a pas plus beau pilote sur sa machine que Jorge Lorenzo. Et plusieurs pilotes sont Randy Depunier aussi, que en parlait récemment. Donc,
pour caricaturer, en fait, Jorge Lorenzo, c'est un peu, en gros, le spécialiste de la pole position. C'est un pilote qui est très bon, pas forcément dans la bagarre, mais dans la performance. Hein, c'est un peu ça, Jean-Luc.
Il y a un peu de ça et il a un pilotage, comme il le dit d'ailleurs lui-même, qui est adapté à sa Ducati. Il arrive à faire gagner la Ducati et rappelle-toi, regarde comment Lorenzo a mis longtemps à y parvenir, hein, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'il quitte l'équipe pour aller chez Honda. Alors, ça va être très intéressant, comme toujours, non seulement la fin de saison, même si, bon, a priori pour Marquez, ça sent très très bon après 14 Grands Prix, comme tu le dis, mais l'opposition, dans tous les sens du terme, entre Jorge Lorenzo et au niveau caractère et style de pilotage et Marquez chez Honda l'an prochain, ça va être absolument génial.
Merci beaucoup Jean-Luc. Ainsi s'achève.
C'est toujours
Motors.
Un plaisir.
Merci Jean-Luc.
13h57 sur RMC.
Salut.
Merci Benoît.
Salut.
On vous rappelle les rendez-vous Sport Méca la semaine prochaine. Motors à 13h évidemment sur RMC dimanche. Les qualifs samedi soir du Grand Prix des États-Unis et dimanche prochain 20h10 le Grand Prix d'Austin. Peut-être le titre pour Lewis Hamilton. 13h58.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.